Voilà. Ben, Jacques, Josy, nous vous présentons aujourd'hui l'émission dans notre studio de campagne, dans le Vaucluse, toujours, hein, puisqu'on est un peu coincé ici en ce moment. Mais enfin, c'est une prison assez belle quand même. Voilà, alors vous êtes bien sur Radio Libertaire, à l'émission Chronique Hebdo. Dans l'émission de commentaires de l'actualité, d'un point de vue le plus anarchiste possible, du moins on l'espère, et avec la possibilité aussi d'apporter vos contradictions, si vous le souhaitez, par l'intermédiaire de notre blog, où une adresse e-mail est laissée et vous pouvez nous adresser vos courriers. Alors, on sera le 25, on est le 25. Donc le jour où vous écoutez l'émission, c'est le 25, jeudi 25, et 25 avril 2013, hein, on va se situer bien dans le temps. Et donc demain, c'est un anniversaire un peu triste d'un événement dramatique dont on va vous parler un peu plus que d'habitude du problème nucléaire. Et au milieu d'autres sujets, hein, de sujets d'actualité. Et toujours le dégoût que peuvent inspirer les hommes politiques, les gens à la tête du pouvoir. Et des fois, bon, ça ressemble plutôt à une bande dessinée. Et on préfère en rire plutôt qu'en pleurer, comme dirait Jacques Brel dans sa chanson sur la bêtise, qu'on espère vous faire écouter plus tard. Il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer, mais c'est vraiment triste, n'est-ce pas, Jacques?
Oui, ben c'est vrai, nous sommes sur Radio Libertaire, dans le fin fond du Vaucluse, et nous allons essayer de faire une émission habituelle de commentaires de l'actualité, comme tu viens de le dire.
Sans Gérard,
Sans Gérard,
notre
puisque
troisième à
lui
côté.
continue à se reposer en Bretagne, là-bas, sous la pluie. Et ces commentaires d'aujourd'hui seront centrés sur une vision très, très anarchiste de la vie en société, puisque, au fond, vous avez remarqué que tout le monde parle de moraliser la vie politique, de faire la morale laïque à l'école. Il y a des comités d'éthique, comme on dit un peu partout. Cette notion de morale, cette notion de morale, de philosophie des mœurs, comme c'est-à-dire des relations entre les individus et les groupes, eh bien, ça a été le fondement du principal ouvrage du père de l'anarchie, Pierre-Joseph Proudhon, qui a écrit De la justice dans la Révolution et dans l'Église, hein, en opposant bien les notions de la Révolution et celles de l'Église, puisqu'au fond, il ne peut pas y avoir de morale qui soit transcendantale, qui soit finalement fondée sur le dogme et la révélation et la fidélité à un être suprême. Alors qu'effectivement, la Révolution a essayé de faire devenir des hommes ceux qui n'étaient que des membres d'une communauté, des atomes, en quelque sorte, d'une communauté. Et donc, si je fais référence à Proudhon, c'est parce qu'effectivement, pour lui, sa morale, c'était pas faire des contrôles de patrimoine et c'était pas faire la leçon de morale moralisatrice à l'école ou dans les édifices religieux. C'était le respect de la dignité de chacun, de chaque individu. Autant on peut se respecter soi-même, si on ne respecte pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Et donc ce respect de l'autonomie, de la personnalité, de la spécificité de l'individu, eh bien, c'était le fondement même de la morale anarchiste. Et c'est ce qui, en quelque sorte, à l'opposé de tous ceux qui prétendent que les anarchistes sont des poseurs de bombes, c'est ce qui supporte, c'est ce qui est le socle d'une organisation différente de celle du libéralisme que nous vivons, du capitalisme que nous vivons, une organisation différente qui soit complètement opposée à la loi de la jungle. Parce qu'effectivement, vouloir faire de la morale chez les hommes politiques, vouloir exposer des principes de respect de la dignité de l'individu dans une école, alors que nous vivons dans un système qui est purement et simplement la loi de la jungle, la loi du plus fort, il n'y a pas à, qu'on la présente sous n'importe quelle forme, évidemment le plus délicatement possible pour ne pas choquer, mais en réalité, quand on parle de compétitivité, quand on parle de regroupement d'industrie ou de finance, quand on parle de délocalisation, quand on parle de flexi-sécurité dans l'emploi, qu'est-ce qu'on fait sinon, au fond, illustrer la loi du plus fort, la loi de la jungle, ce livre de Kipling que nous devrions lire souvent? Eh bien, effectivement, c'est sur ces bases que nous allons essayer de voir dans l'actualité de ces derniers jours, tout simplement, ce qu'on peut apprendre aux enfants des écoles, en ce qui concerne la morale dite laïque, selon M. Payon, dite républicaine, et ce qu'on peut aussi imaginer de la morale politique, puisqu'au fond, le grand déballage sur le patrimoine des élus, avec tout ce que ça comporte de parfaitement ridicule, le grand déballage qui a été, au fond, une façon de reconnaître que les hommes politiques ont souvent, presque toujours, comme principal objectif de garder leurs privilèges financiers, leurs privilèges territorial, leurs privilèges de relations avec les plus riches, éventuellement comme M. Sarkozy qui s'est fait payer sa campagne électorale par M. Kadhafi et qui ensuite a été l'assassiné. Hein, voilà ce que c'est que la morale d'un chef d'État. Et quand Proudhon dit « l'État est étranger à toute idée morale », bah effectivement, je crois que dans l'illustration qu'on peut faire des faits très concrets de l'actualité de cette semaine, puisqu'au fond notre émission est une émission hebdomadaire, il suffit de lire les journaux de cette semaine pour savoir que, effectivement, nous sommes loin de ce que nous pourrions appeler le respect de l'individu, le respect des groupes et la capacité à ne pas être un simple futur assassin. Parce que l'assassin peut être son couteau, hein, comme dirait la Juliette. Chanson. Comme dirait Juliette, les assassins sont en couteau. Alors, ce que je voudrais souligner dans un premier temps, c'est...
Tu veux une illustration de ce que tu disais là par rapport à... Oui, une illustration, c'est Hollande, le titre dans le canard, c'est Hollande s'accroche à sa part de fromage, c'est-à-dire il demandait une moralisation dans la vie politique et par rapport comment ça s'appelle ?
Oui, il y a une réserve financière,
je crois. Une réserve, voilà, c'est ça. Hein,
une réserve d'argent, une petite caisse noire, comme on dit, voilà. Au profit du Parlement et au profit du président de la République.
Voilà, alors chaque député bénéficierait de 130 000 euros par an pour ses bonnes œuvres. Et donc, il était question d'abolir cette petite provision de chacun.
Ce privilège
de chacun. Mais en fait, il a vu que ça ne marcherait pas. Et surtout, il a vite renoncé parce que lui-même a une enveloppe de 19 millions d'euros à sa disposition.
Ce qui lui permet de satisfaire ses relations.
Voilà. Donc, tu vois, c'est même s'il veut faire le ménage, il a trop d'intérêt lui-même à ne pas le faire, justement. Voilà.
Alors, effectivement, cette illustration de l'homme politique qui est dépourvu de tout moral, parce qu'au fond, avoir 18 millions à sa disposition pour faire n'importe quoi, et sans qu'on ait, alors là, de, comme on dit, de transparence, hein, c'est des sommes qui sont versées aux petits copains, mais au nom de la, du secret d'État, au nom de l'intérêt général de l'État, évidemment, personne n'est au courant, ou en tout cas, s'il y a une information, elle est toujours, là encore, transparente au sens où la transparence, c'est finalement l'incapacité de repérer et de reconnaître. Hein, si vous avez un miroir transparent, vous ne voyez pas. Si, c'est seulement s'il n'est pas transparent que vous pouvez vous regarder. Alors donc, c'est ce phénomène qui consiste à dire nous allons moraliser la vie politique, nous allons obliger les députés et les ministres à dire ce qu'ils ont dans leur patrimoine, c'est évidemment une, là encore, une, un faux semblant, c'est pour amuser le tapis, c'est quelque chose qui n'a évidemment aucune portée, c'est pas ça qui va changer en effet la donne, puisque la donne elle est claire, c'est celle que je vous précisais tout à l'heure et qu'on a développé souvent ici sur Radio Libertaire, c'est le capitalisme, c'est la loi de la jungle, donc on voit pas du tout pourquoi on mettrait même Monsieur Cahuzac en prison. Hein, Monsieur Cahuzac n'a fait, évidemment il s'est fait prendre, évidemment il a fraudé d'une façon un peu maladroite et il s'est fait prendre. Mais la logique capitaliste, c'est de produire ou de faire un service, quel qu'il soit, même si c'est un service militaire qui va tuer des millions de gens, c'est de faire quelque chose, de faire une, c'est ça la croissance. Il faut faire n'importe quoi du moment que ça rapporte et du moment que ça rapporte vite et que ça rapporte beaucoup. Alors donc, on voit pas pourquoi les capitalistes n'auraient pas, dans cette logique, n'auraient pas le droit d'aller, en effet, faire des affaires dans n'importe quel pays ou dans les paradis fiscaux. Donc on peut dire que Monsieur Cahuzac est un très bon capitaliste. Évidemment, il s'est fait prendre parce que là, il s'est peut-être été un peu trop voyant, et puis il avait des relations qui ont été repérées, mais le nombre d'hommes politiques qui ont fait la même chose en plus ou moins grand que Cahuzac est phénoménal. Hein, dans l'actualité, par exemple, on a le député de droite qui s'appelle Gaston Flosse, qui est député depuis peut-être 20, 30 ou 40 ans en Polynésie française, qui a été condamné à de la prison, qui a fait de la prison et qui est en tête des sondages aujourd'hui qu'il y a une élection. Donc c'est ça qui est qui paraît incroyable, mais en même temps, pour le bon peuple, comme on dit « Ah ben oui, il s'est bien démerdé, celui-là, il a réussi à voler les autres, il a, oh d'accord, il a fait un peu de prison, mais enfin, ça, c'est pas grave. » Et donc, on va à nouveau le choisir, hein, parce qu'on va compter, hein, c'est ça le clientélisme, c'est ça le fait qu'on se dit « Mais tiens, si j'ai un député ou un ministre dans ma poche, je vais pouvoir lui demander de taper dans sa réserve, hein, dont tu parlais tout à l'heure. » Et donc, effectivement, le système qui dissimule sous le faux semblant de la souveraineté populaire, qui dissimule en quelque sorte le fétichisme de la délégation de pouvoir, qui fait que finalement les gens se disent « Oh bon, moi je fais pas de politique, je vais aller voter pour machin. En plus, machin, je le connais, peut-être bien que je pourrais avoir un petit avantage grâce à lui. » Donc, à partir du moment où on entre dans cette logique du non-respect des autres, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète? Des millions et des millions de gens crèvent de faim. Hein, en Afrique, effectivement, je lisais encore récemment que ces traders dont on a parlé souvent, notamment à la bourse de la cité de Londres, qui est d'après le Monde, qui est le paradis fiscal par excellence, puisqu'il y a plus de 50% des transactions frauduleuses qui passent par la cité de Londres, par cette gigantesque mafia financière. Et donc, on a beaucoup parlé de ces traders, il y en a même un qui a été poursuivi. C'est comme Cahuzac, on ne voit pas du tout pourquoi on poursuivrait un individu qui ne fait que appliquer, alors évidemment avec maladresse quelquefois, les règles fondamentales du capitalisme, qui est il faut absolument faire du profit sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel produit, sur n'importe quel service, même si ces produits sont frelatés, même si ces engrais chimiques, comme on le constate aussi dans l'actualité, sont en train de tuer des paysans. Il y a même, je crois qu'il y a même eu un procès en Alsace d'un paysan qui a réussi à faire condamner l'État parce que l'État a laissé, en quelque sorte, mettre en circulation, là encore, protégeant les industries chimiques des pesticides, a laissé mettre en circulation des produits qui l'ont rendu gravement malade. Donc, quand je dis que effectivement la loi de la jungle s'applique à tout, quand on voit effectivement que même dans l'alimentation, on est obligé de faire des contrôles, et encore ces contrôles, hein, personne ne peut croire à l'efficacité de ces contrôles qui sont faits par des soi-disant experts qui sont souvent rémunérés par les producteurs, par les distributeurs, par les industriels de l'alimentation ou par les industriels des produits chimiques. Donc dans une société sans morale, vouloir parler de moralisation de la vie politique, vouloir parler de morale à l'école, c'est évidemment quelque chose qui est parfaitement ridicule. Alors, ce sujet de l'absence de morale, il s'applique, et si vous regardez le blog de Chronique Hebdo, et notamment celui de Archibald Zurvan, vous pourrez constater que j'ai fait un peu à l'avance, mais ça lui arrivera peut-être, on peut le souhaiter, un procès imaginaire de François Hollande devant la Cour pénale internationale à cause du fait qu'il a déclenché une guerre au Mali sans avoir expressément une mission écrite de la part de l'ONU, qu'il a même été obligé ensuite, pour essayer de justifier son initiative, de faire écrire au Premier ministre anglais et à lui-même par le chef d'État malien, qui en plus est un chef d'État putschiste, qu'il avait besoin de son aide. Hein. Donc il y a déjà eu 3 audiences dans cet imaginaire cour de pénale internationale. Mais dans l'actualité d'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Alors qu'il est enfoncé dans un bourbier que le journal Le Monde développe très clairement sur 2 pages, que les soldats maliens exécutent sans procès tous ceux qu'ils considèrent comme des suspects. Hein, d'ailleurs, il y avait dans Le Monde il y a quelques semaines, ou un peu après le début de cette aventure criminelle, eh bien, il y avait un journaliste qui interrogeait un général ou un officier malien qui venait d'arrêter ce qu'il appelait des suspects. Hein. Des suspects. Donc, c'était même pas des ennemis qui lui avaient tiré dessus, c'était des suspects qui étaient susceptibles de lui tirer dessus. Et le journaliste lui disait, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces suspects? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez les porter à la justice? Est-ce qu'il y a soit la justice militaire, soit la justice civile? Pour essayer de savoir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que c'est que cette suspicion? Est-ce qu'elle est justifiée, etc. Eh bien, l'officier malien lui répondu avec une grande simplicité, une grande naïveté et un grand sourire. Mais vous savez, nous, les suspects, quand on a des suspects, on les zigouille. on les zigouille. Voilà ce que vous pouvez lire, d'ailleurs, dans Le Monde, il y a un certain temps. Eh bien, quand on voit que M. Hollande a non seulement déclenché une guerre qui produit les effets que vous savez, avec des prises d'otages, avec des contaminations dans toute l'Afrique de l'Ouest, et même aussi dans l'Afrique, comme on l'appelle, du Sahel, en Algérie, en Libye, hein, les armes que M. Sarkozy a vendues à Kadhafi, moyennant finance, et avec l'argent qui lui a permis, puisqu'il y a une enquête des juges sur cette histoire-là, avec une enquête qui, effectivement, consiste à dire, mais en vendant des armes, les industriels français soutenus par Sarkozy ont facilité le paiement de commissions qui ont servi à la campagne électorale de notre président de la République, hein, qui n'a pas hésité après à aller faire assassiner son copain qu'il avait reçu dans les salons de l'Élysée. Alors quand on dit que l'État et son chef, a fortiori, est indifférent à toute idée morale et étranger au droit, même au droit international, il est étranger, Hollande, il n'a pas respecté le droit international. Et là, il a demandé, alors qu'il n'avait jamais demandé et qu'il n'avait jamais obtenu, ni de l'ONU, ni de ses collègues européens à qui il pleurnichait pour se faire aider dans ce bourbier malien, alors qu'il n'avait jamais obtenu d'autorisation et qu'il n'avait jamais demandé au Parlement français, parce que vous élisez des députés, mais à quoi ils servent? C'est le président de la République qui déclenche une guerre tout seul. Hein, c'est lui qui va appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Et vous acceptez qu'il y ait un seul individu qui peut, dans un accès de folie, même s'il prétend être normal, vous prétendez que vous faites une bonne chose, que vous confiez votre sort à un individu normal et qui va en effet régler vos problèmes. Il les réglera d'une façon dangereuse par le fait que vos enfants seront pris en otage, comme ça a été le cas. Un otage exécuté, une famille d'otages libérée après rançon, alors avec un président de la République qui va se glorifier sur place en disant « grâce à moi, vous voyez, on a libéré cette pauvre famille et on n'a pas payé un sou ». Or, avec qui il est parti en avion? Il est parti avec le milliardaire PDG du groupe GDF Suez. Donc on peut se demander, et c'est une hypothèse qui est tout à fait vraisemblable, que la multinationale GDF Suez, encore une fois, un mélange de gaz et de finances, c'est un mélange explosif, puisque Suez c'était une banque et que GDF c'était notre service public de fourniture du gaz pour allumer notre petit réchaud et puis faire cuire nos œufs durs. Hein. Et donc, il va se glorifier, le président de la République, en disant « Regardez, non seulement j'ai rien payé, mais en plus, une famille est sauvée. » Mais il en reste encore une dizaine d'otages. Et donc, indépendamment de ça, bien que Fabius, lui aussi, ait parlé d'intérêts uniquement liés au fait qu'il n'y a pas trop de militaires de morts, il n'y a pas trop de Français de tués, mais en ce qui concerne les populations civiles d'Afrique, du Mali en particulier, ils s'en moquent complètement. Or, hier, Hollande a demandé aux députés français et aux sénateurs de l'autorisation de prolonger, parce qu'il devait s'en aller en avril, de cette fournaise, de ce merdier, si j'ose utiliser cette expression, dans lequel il a fourré l'ensemble du pays. Eh bien, il a demandé aux députés l'autorisation de continuer cette bataille perdue d'avance. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire Le Monde d'hier pour savoir que c'est un échec total. Il y a Et il est certain que même dans les pays, même dans les villes comme Gao ou Tombouctou, même Bamako, où il prétend avoir éradiqué à la pince à épiler, c'est le mot qu'utilisait un de ses généraux ou un de ses colonels, éradiquer le terrorisme au Mali, c'est complètement faux, puisque quelques mois ou quelques semaines, simplement quelques jours après la soi-disant éradication du terrorisme, eh bien, de nouveaux attentats ont lieu, et c'est tout à fait logique. Le Al-Qaïda et puis toutes les mouvances du terrorisme religieux, c'est un pléonasme d'ailleurs, continueront, puisque elles sont, d'une part, elles sont bien implantées, elles sont bien armées, elles sont financées par nos amis du Qatar et d'Arabie Saoudite, et donc, hein, vous savez, le Qatar, celui qui est propriétaire du Racing Club de Paris, hein, et puis qui essaye aussi en France d'acheter des tas
des
immeubles, de terrains, des immeubles, et qui veut faire des... Eh bien voilà, hein, c'est ça les affaires. On a d'un côté des gens qui financent les terroristes religieux, mais qui au fond sont aussi capables de financer les clubs de sport français ou bien d'acheter des hôtels de luxe à Paris. Et ça n'a pas d'importance. C'est ça la morale, hein. C'est ça la morale. Eh bien, le Parlement français, alors vous pourrez féliciter vos députés ou vos sénateurs, a voté à l'unanimité, sauf quelques députés du Front de Gauche qui n'ont pas voté contre, mais qui se sont simplement abstenus, hein, abstenus de tuer, abstenus de faire la guerre, abstenus d'être des criminels. Voilà ce que c'est. Et ensuite, vous allez écouter M. Mélenchon faire des grands discours pour dire que Hollande est nul. Bah, lui aussi et son équipe est nul, parce qu'effectivement, il s'agissait non seulement de s'opposer à la continuation de cette guerre perdu d'avance, déjà perdu d'ailleurs, hein, puisque même sur Internet, on peut dire qu'il y a toute une série d'informations selon lesquelles les terroristes religieux, Al-Qaïda en particulier, disent qu'il n'est pas question d'arrêter la croisade que les Français font contre les musulmans. Et l'ensemble des pays d'Afrique, du Nord et même d'Afrique centrale, sont musulmans, malheureusement. Hein. Dans le temps, ils étaient animistes. Alors, est-ce que quand on est animiste, on est moins féroce qu'un religieux chrétien, juif ou musulman ? Ça, la question risque d'être posée. Mais donc, la Chambre des députés accepte de continuer à faire la guerre, à aller tuer des gens, à aller zigouiller des suspects, comme le disent les officiers maliens. Et tenez-vous bien, il n'y a pas effectivement à être surpris. Le Sénat, hein, les sénateurs que vous avez élus, ils ont voté à l'unanimité. Il n'y a absolument eu ni abstention, ni vote contre la poursuite de la guerre. Alors l'objectif de la soi-disant démocratie représentative, c'est d'envoyer dans un parlement des gens pour qui la guerre est finalement une nécessité ou alors un petit détail, un amusement, une amusette, et que il faut bien envoyer quelques soldats. Eh bien, je pense que on a là la démonstration non seulement de l'absence de morale, mais de la criminalité des gens que vous avez envoyés. Enfin, je dis vous, je pourrais dire nous. En tout cas, peut-être que les auditeurs de Radio Libertaire ne sont pas entrés dans cette logique infernale du fétichisme de la délégation de pouvoir, parce que voilà, quand on considère qu'un individu va ne faire que des choses positives, eh bien malheureusement, on se trompe. Il y a d'ailleurs un article dont je dirais peut-être un mot tout à l'heure sur justement la méfiance dont nous devons faire preuve. Hein, j'ai déjà cité...
Oui,
déjà cité... un écrivain français.
Léoto, c'était Léoto.
Pierre Léoto. J'ai... J'ai cité Pierre Léauto, mais il est repris dans le, oui, dans le,
dans le monde.
Dans le monde daté, c'est pas vieux, hein, puisque dimanche, lundi, donc c'était le 21-22. 22 avril.
Oui,
c'est il est relayé par une...
ils ont repris la formule.
Une non, écrivaine, je crois, qui s'appelle Sophie... Sophie, j'ai plus son nom.
Valnitch.
Et qui écrit « La méfiance... » Hein, écoutez bien,
une
c'est un gros titre.
Citoyenne.
La méfiance, une vertu citoyenne. Alors, c'est vrai que le mot citoyen, comme dirait Gérard, citoyen, c'est pas ça. Mais la méfiance, une vertu, Paul Léauto disait, la méfiance est
la
pour
confiance.
Moi... Vas-y.
La confiance.
Non, mais d'abord, la méfiance est pour moi une forme de l'intelligence.
Oui, mais
une
parce
forme
qu'il
de l'intelligence.
À dire la,
confiance est pour moi, la confiance est pour moi une forme de la bêtise.
Oui.
Eh bien, effectivement, la bêtise, c'est le deuxième thème un peu de notre émission d'aujourd'hui. La bêtise, quand vous voyez ces manifestations contre le mariage des homos, effectivement, vous pouvez dire que les choses n'ont pas vraiment progressé en matière d'intelligence.
Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui disait que la bêtise donne une sensation de l'infini. C'est bien ça. Oui, bah, tu sais, pour illustrer un peu les politiques et pour dégoûter à tout jamais tous les auditeurs du vote des hommes politiques, j'avais envie de revenir sur une déclaration qu'avait fait Véronique Vasseur. Véronique Vasseur, qui était un médecin qui qui travaillait dans les prisons et qui a eu la malheureuse idée, la malheureuse tentation d'être invitée à participer à une campagne, à se présenter d'ailleurs aux élections, dans le groupe de l'UMP, dans le groupe de Sarkozy. Mais cette expérience, à la sortie de cette expérience, elle a déclaré que plus jamais elle ne voterait. Au moins, ça avait porté ses fruits et qu'elle avait été vraiment dégoûtée. Alors, je voulais dire un petit peu ce qu'elle disait, parce que bon, là, en plus, quelqu'un de droite, hein, on va dire, qui parle comme ça, ça donne un peu une idée. Alors, elle disait « Je suis tellement dégoûtée de la politique que je ne voterai jamais plus. Ce monde est peuplé de gens sans loi, sans foi ni loi, et de courtisans qui occupent la vacuité de leur vie en faisant de la politique. » Mais le plus terrible, c'est la posture qu'on vous demande d'adopter. Il faut une obéissance totale à un chef et à des idées, même si vous ne les partagez pas. Il faut également s'oublier, ne pas apparaître comme une personne, ne pas être soi, mais comme un acteur. Et là, on a vu les acteurs, hein. Il faut enfin accepter de se faire cracher dessus et continuer d'aller au contact des électeurs. Voilà. Donc, il faut être vraiment en béton armé pour arriver à faire une carrière en politique.
Et il faut être un voyou. Regarde ce qui s'est passé à l'Assemblée.
Oui, c'est ça que je voulais dire à l'Assemblée. Donc, à l'Assemblée, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais finalement... Donc, y avait quelqu'un qui faisait un petit peu des grimaces derrière la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Et donc, des députés UMP sont descendus dans l'arène pour l'agresser. Mais en fait, il paraît que c'est un mec de droite. Et en fait, ces grimaces ont été vraiment très mal interprétées et on a coupé donc à l'Assemblée une partie du film qui retransmettait normalement en direct ce qui se passe à l'Assemblée. Donc voilà, on est dans un pays...
C'est ça qu'on appelle la transparence.
Voilà, c'est ça la transparence.
C'est-à-dire la censure.
Voilà.
C'est l'illustration parfaite de ce qu'on a dit sur le comportement des hommes politiques.
Voilà, hein. Alors lui,
et c'est même pas. Et on pourrait dire que c'est qu'ils sont inscrits dans une logique de la fraude, dans une logique du combat, dans une logique de la jungle. Et donc, effectivement, ce que tu viens de lire, c'est tout à fait une illustration. Et en plus de quelqu'un qui a fréquenté très bien ce milieu.
Oui. L'obéissance totale à un chef et à des idées, même si vous ne les partagez pas. Oui, parce qu'on sait que les députés ont une idée quand ils sont à l'Assemblée ou défendent certaines idées à l'Assemblée, mais en défendent complètement des différentes lorsqu'ils sont dans leur ville, dans leur siège, parce que justement, ils sont en face des électeurs et il faut caresser dans le sens du poil l'électeur si on veut qu'il revote pour vous. Voilà. Et alors, je ne sais pas, il y avait aussi un truc que j'avais trouvé drôle dans les journaux, c'est que maintenant, il est question que même Bruxelles, l'Union européenne, aurait des dettes. On parle toujours des dettes des États. Et maintenant, c'est Bruxelles qui est la donneuse de leçons à tous les États, qui serait accusée d'avoir des dettes aussi. Voilà.
Oui, alors, dans notre programme de cette émission particulière, du comtat venaissin ou tout près d'Avignon, où il y a eu des papes,
voilà.
On va aussi parler, bien sûr, de la morale religieuse, hein, puisque j'évoquais tout à l'heure le fait que les terroristes islamistes ne sont pas les seuls à se comporter en terroristes. Alors, il y a des terroristes chrétiens, ils n'ont pas forcément les armes, encore qu'il y a quand même eu des bagarres avec l'histoire du mariage, l'histoire du mariage entre les personnes homosexuelles. Donc, effectivement, on s'est aperçu que les religieux, hein, les catholiques, et pas seulement intégristes, puisque même le cardinal 22, là, Vlalefic, André 22, qui est le cardinal parisien, a pris une position extrêmement lamentable et très dure sur, en effet, cette idée que, au fond, c'est la famille, c'est l'enfant qui va être la victime de cette mesure.
Ah oui, paraît qu'on va les assassiner. Particulière. C'est un assassinat d'enfants.
Oui, ou alors c'est une dictature, etc. Brusquement, voilà que les gens... Et c'est en ça que notre deuxième thème, c'est la bêtise. Parce qu'effectivement, la bêtise, l'imbécilité, l'incapacité de réfléchir, le non-respect des autres, quel que soit leur goût, leurs appétences et leurs spécificités, eh bien... risque d'être extrêmement violente. Hein. La connerie débouche sur la violence par définition, et on l'a vu au cours de ces derniers jours, où des bars ou des associations ou des gens dans les rues même ont été attaqués par les terroristes chrétiens que nous recelons, hein, avec évidemment les imbéciles qui ont suivi les consignes d'un certain nombre de gueulards ou de gueulardes, comme la mère Barjot et autres. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la morale religieuse, comme le disait Proudhon, est une morale de l'assassinat, du viol. Y a-t-il encore un homme chez le soldat ou chez le moine ? Écrivait Proudhon, et d'autres ont aussi rappelé cela, Blanqui également. Hein, y a-t-il encore un homme ? Eh ben, malheureusement, on peut dire que même des animaux ont un certain sens de l'entraide et un certain sens du respect de l'autre. Et donc, encore une fois, on dirait bien que ces manifestations d'une grossièreté, d'une stupidité, d'une vulgarité, d'une cruauté, d'une haine, d'ailleurs, on pourrait passer la chanson si on veut.
Ah oui, la si haine. On veut, sur la.
Voilà, oui.
Les quatre barbus.
Les cas, la haine, ah, et, oui, la haine et les haineux. On peut dire que c'est véritablement non seulement inacceptable, hein, non seulement scandaleux, mais c'est aussi l'illustration, alors que la France est le 14e pays, qu'il y en a déjà 13 en Europe qui ont déclaré logique et légal ou dans leur code le mariage homosexuel, et bien que la France, qui a été considérée pendant des siècles, peut-être à tort d'ailleurs, parce que c'était quand même des comportements d'aristocrates, comme le pays qui avait quand même une certaine ouverture d'esprit, le pays où est né les idées révolutionnaires, le pays où est né Rabelais, où est né Montaigne, où est né Diderot, où est né Condorcet, hein, tous ces gens qui ont été capables, là, d'avoir une vraie morale anarchiste, même s'ils ne s'appelaient pas anarchistes, ou la Boétie, hein, quand il critique effectivement cet abaissement que constitue la servitude volontaire. Et ben voilà, hein, les imbéciles qui descendent dans la rue pour taper sur les homos, eh bien, ce sont des gens qui se sont en quelque sorte fait endoctriner et qui ont accepté de ne plus être des hommes ou des femmes, mais d'être des simples fidèles, des moutons du troupeau, prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire le chef de la communauté. Voilà ce que c'est qu'une religion. Et c'est pas seulement en France d'ailleurs, hein, parce que dans l'actualité sur ce point particulier, on a un pays qui s'appelle la Turquie et que l'Union européenne voudrait associer. Eh bien, figurez-vous que le pays du monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés, et notamment pour blasphème ou pour atteinte à la fausse morale religieuse, c'est-à-dire à l'immoralité que constitue tout dogme religieux, toute transcendance, eh bien, c'est la Turquie. Et encore une fois, eh bien, on peut lire dans le Monde qui est daté de, je vais vous dire ça, d'hier, mercredi 17 avril. Non. C'était là. On peut lire, voilà, un journaliste turc, Fazil Say, condamné pour insulte aux valeurs religieuses. Alors voilà ce que c'est. De la même façon, en ce moment, l'Union européenne vient de lever les sanctions économiques qu'elle avait depuis quelques années imposées à la Birmanie, où il y avait des dictateurs. À des dictateurs militaires. Et depuis que ces dictateurs ont cédé la place à un président élu, enfin, je suppose qu'il était élu, ce président est considéré par un organisme new-yorkais qui s'appelle Crisis, etc., qui est spécialisé dans l'analyse du comportement des chefs d'État et des États par rapport aux droits de l'homme. Eh bien, cette association vient de donner un prix au président birman. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous lisez un article sur ce sujet également de cette semaine dans Le Monde ? Plusieurs dizaines de milliers de musulmans sont chassés ou massacrés par les bouddhistes, de la même façon que les musulmans vont, quand ils sont majoritaires, eh bien, ils vont s'attaquer aux communautés religieuses différentes. Quand Blanqui disait « il y a un assassin dans tout religieux, dans tout spiritualiste convaincu », hein, il n'utilisait pas le mot intégriste, eh bien, il avait raison. Il y a un assassin. Donc, comment voulez-vous que on puisse donner, on puisse estimer qu'il puisse y avoir une morale religieuse? Et c'est pour cela que, dans la deuxième partie, peut-être, de notre intervention, je voudrais, par rapport à ce ministre qui se prend pour Jules Ferry et qui, malheureusement, là encore une fois, aussi autant Hollande est d'une stupidité rare quand il lance l'idée d'un sujet qui n'avait vraiment qu'une importance très relative, hein, parce que gay, marions-nous, mettons-nous la corde au cou, donc on voit pas pourquoi, qu'il soit hétéro, qu'il soit homo, le mariage serait quelque chose de fondamental. Et donc, la bêtise, évidemment, a été aussi celle d'un candidat à la présidence qui a essayé de faire voter pour lui une partie de la communauté homosexuelle. Mais quand on voit effectivement que M. Peillon, ministre de l'Éducation nationale, veut enseigner la morale de Jules Ferry à l'école, la morale soi-disant laïque, la morale soi-disant républicaine, eh ben je pense qu'il est temps, il sera temps de se rappeler de ce que c'est que cette morale laïque pour l'auteur, pour le créateur, encore que c'est une appellation un peu fausse, parce que l'obligation, ouais. En tout cas l'école généralisée, ça existait avant Jules Ferry, mais en tout cas, Jules Ferry a fait une circulaire très intéressante sur ce sujet.
Alors on va faire peut-être une interruption, et on espère qu'on arrivera à glisser une petite partie musicale entre ces deux parties de développement de l'actualité.